Bon ben voilà, on est au printemps, la promesse de jours meilleurs, alors que l'avant ne fait que se répéter après. Il est important d'apprendre de notre passé pour essayer de mieux gérer notre avenir. Bienvenue dans CMA. Bonsoir et bienvenue dans CMA, c'était mieux après, l'émission qui revient aux origines des choses. Ce soir, on va se promener dans le temps avec des chroniqueurs au taquet. Voici la première partie de CMA. Ici, il a le statut de spécialiste cinéma et de statut, il nous en parle ce soir. Bonsoir Olivier, quel est ton sujet ?
Je vais vous parler des Oscars qui ont lieu à la fin de la semaine.
D'accord,
voilà,
très
quelques
bien.
Quelques petites anecdotes croustillantes.
Tel un magazine, elle vogue dans les eaux pétillantes avec un nouveau petit moyen de locomotion. Bonsoir Caro.
Bonsoir.
De quoi nous parles-tu ?
Eh bien ce soir, nous allons voir les origines plutôt mignonnes et drôles de la success story Petit Bateau.
Oh, cool. Il est le seul qui peut sauver Peach. Qui ça ? Eh bien, on abat les cartes ce soir avec Mathias. Bonsoir.
Bonsoir.
On joue à quoi avec toi ?
Alors ce soir, je vais vous parler de Mario et vous allez voir que lui aussi a dû faire une reconversion professionnelle pour être célèbre aujourd'hui.
Ah, ah d'accord, ok. Mario, Pôle emploi. Est-ce que la musique c'était mieux après ? Eh bien, on saura tout ce soir avec notre DJ, n'est-ce pas Sonia ? Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et bien sûr, comme à chaque émission, on répondra à vos questions avec des Graals. Cette pastille d'une minute où on apprend plein de choses pour en parler à la machine à café. Et ce soir, on apprendra comment faire caca et sucer des pastilles. Hein, tout un programme. Mais restez bien avec nous, car ensuite, on parlera de clés et de billes. Allez, vous êtes sur Radio G ou Spotify. C'est la première partie de CMA qui commence. En France, on a les Césars où on montre ses fesses et on offre un lingot tout droit sorti d'une casse automobile. Aux États-Unis, on a les Oscars avec comme trophée un homme tout nu et on se scandalise pour un bout de sein. Deux salles, deux ambiances. On revient sur ce grand prix américain de cinéma avec Olivier. Ça parle d'Oscar.
Oui, il est dit Oscar. Alors, c'est dimanche prochain, le 27 mars 2022, eh bien, va avoir lieu la 94e cérémonie des Oscars. Alors, cette année, il y a deux grands...
Qu'est-ce qui fait rire entre la musique, qui n'a rien à voir avec ton sujet.
Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est n'avait rien à voir.
C'est les Oscars, le point commun. Alors, cette année, on va assister peut-être à une lutte entre les deux grandes plateformes américaines. On citera Netflix et Amazon. Alors, du côté Netflix, il y a Power of the Dog, un film de Jeanne Campion. Alors, c'est une sorte de western sur la masculinité toxique. Je vous le conseille, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça s'appelle Power of the Dog.
Ok. Ah,
mais il faut avoir Netflix, c'est ça ?
Oui, bah oui. Et de l'autre côté, vous avez, j'en avais déjà parlé il y a un, deux, trois mois, c'est Coda. Le film sur l'adaptation américaine de la famille Bélier. Ah. Il faut savoir que le film a remporté beaucoup de prix aux États-Unis. Donc voilà, ça sera l'un ou l'autre, avec comme outsider Dune, qui a aussi 10 nominations, et puis aussi le film qui est sorti il y a 15 jours, Belfast, un film en noir et blanc aussi sur l'enfance d'un... l'enfance d'un petit dans le Belfast des années 60. Donc le prix entre catholiques et protestants. Alors, cette année, bah, les Oscars, ils sont en grosse, grosse difficulté. Les audiences ont chuté, mais de manière incroyable depuis 2-3 ans. Hein. C'est quasiment moins 50% tous les ans. Et donc, il va falloir dynamiser la cérémonie. Alors, cette fois, la cérémonie a prévu que ce soit plus court. Donc, il faut savoir qu'il y a des prix, des remises de prix qui vont être préenregistrées. Donc, il y a une grosse polémique, notamment Spielberg, Denis Villeneuve, Jeanne Campion ont un peu gueulé. Parce que c'est un peu dénigré ces prix. Alors c'est notamment le prix du court-métrage, du documentaire, du dessin animé, du mini-dessin animé, du montage, de la musique. C'est quand même des prix quand même assez prestigieux.
Mais alors ça veut dire que les gens vont être enregistrés en disant merci, je vous remercie,
alors,
machin, etc.
Alors ça sera un bref passage en disant telle personne a reçu un prix et peut-être des remerciements, mais voilà, millimétré, enfin un truc.
Ouais, si c'est trop long, on coupe en plus.
Qui dure même pas 30 secondes, quoi.
Ouais.
Mais tout ça pour que la cérémonie dure peut-être une heure de moins.
Mais ils enlèvent toutes les pubs déjà, ça durait 3 heures de moins.
En même temps, c'est peut-être ce qu'on aurait dû faire aussi pour les derniers Césars, où ça a duré une plombe.
Oui, aussi.
Et je pense que ça aurait mérité d'être un peu plus dynamique. Mais voilà, mais ça fait quand même une grosse polémique parce que voilà, c'est un peu dénigrer voilà, ces gens, ces personnes qui contribuent au cinéma hollywoodien. Et puis, il va y avoir aussi la remise d'un nouveau prix. Alors là, c'est un peu marrant parce que c'est le prix du public. Alors, on a essayé de faire ça en France, au César, et ça a duré 2-3 ans, parce qu'en fait, on remettait un prix aux films qui avaient eu le plus d'entrées.
Ah alors, oui, donc c'est forcément des films populaires. Et donc,
de Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, ouais. Alors, je ne sais plus, au film de Danny Boone, généralement c'était ça, ou Les Tuches. Donc voilà. Les Césars ont décliné, et les Oscars proposent ça. Alors, l'idée, c'est que les internautes doivent élire leur film préféré sur Twitter, sur le hashtag OscarFanFavorite. Et puis, il y a 3 internautes même qui seront tirés au sort pour assister à la prochaine cérémonie des Oscars. Ça, c'est pas mal, hein, qu'ils soient américains ou étrangers. Donc, Raphaël, t'as toutes tes chances.
Qui veut.
Alors, en donnant la main au public, ben, en fait, il y en a beaucoup qui essayent un petit peu de troller les Oscars. Alors, notamment, il y a des régiments de fans qui mettent le paquet pour publiciter un film. Alors, d'un côté, actuellement, on a les fans de Camila Cabello. Alors, je suppose une chanteuse, je ne sais pas si tu connais Sonia.
Elle chantait au-dessus des années 80, elle connaît pas.
Elle chantait quoi,
tu dis ?
Havana ou.
Ah oui, peut-être. Oui.
Peut-être.
Oui, c'est ça, exactement.
Ah, bien.
Mais je connais pas les noms des artistes.
Alors,
en
c'est Camila Cabello, et puis elle a tourné. Alors, elle a fait une daube pour Amazon. Ah, oui. Tous les films sur Amazon sont des daubes, faut dire ce qui est.
C'est vrai.
Et elle a fait Cendrillon.
Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah, mais là, c'est une bonne daube, ça, c'est sûr.
Elle a un grand fan club aux États-Unis, et tout le monde vote pour Cendrillon. Et c'est même quasiment le film actuellement qui a le plus de chances de remporter l'Oscar. Alors, c'est une énorme daube.
Ce serait n'importe quoi.
Il y a aussi les fans de Johnny Depp qui ont décidé alors de publiciter un film qui s'appelle Minamata, qui est sorti dans une salle aux États-Unis, qui a été un bide monumental. Il est même sorti qu'en VOD en France.
Oui, donc ils font qu'une seule fois la prix du public aussi. Hein.
Alors Johnny Depp, il est un peu banni, ostracisé d'Hollywood, donc ses fans...
Et pourquoi ils font pas le prix avec le plus d'entrées C'est les Marvel qui vont
c'est
gagner.
Non, mais... le public qui vote.
Ouais, bon.
Et puis il y a vraiment des tweetos trolleurs qui ont décidé d'élire le pire film... qui est sorti aux États-Unis. C'est un film d'horreur de James Wan qui s'appelle Malignant. Et c'est un film d'horreur considéré comme un nanar à la fois par le public et à la fois par la critique.
D'accord.
Donc je pense que c'est la dernière année où on verra l'Oscar du prix du public.
L'Oscar ça, c'est du clair. Public. Très bien. Rapidement.
Alors sinon, rapidement, est-ce que vous savez d'où ça vient le nom Oscar ? Donc c'est un chevalier qui tient une épée entre ses mains. Il est posé sur une bobine de film. Avec 5 rayons. Les 5 rayons représentent différentes branches. La branche des producteurs, les réalisateurs, les acteurs, les scénaristes et les techniciens.
Ah, c'est étudié.
C'est étudié, oui.
D'accord.
Alors, à l'origine, c'était une femme de l'académie, une bibliothécaire, qui, quand elle a vu la statue, a dit « Tiens, il ressemble beaucoup à mon oncle Oscar. » Et apparemment, ce serait ça qui aurait donné le nom Oscar.
Ça n'a pas grand-chose. Hein.
On dit aussi que c'est Bette Davis, son mari s'appelait Oscar, et aussi que la statue ressemblait au mari de Bette Davis.
Tiens, ouais. Donc, voilà, les Sonia.
Mais alors, si c'est de la symbolique, j'imagine la symbolique des Césars, ça doit être quoi ? C'est des films compressés ? C'est je ne sais pas la symbolique.
Je ne sais pas ce que ça représente. Ça, ouais. Ouais. Donc sinon, qu'est-ce qu'on peut dire ? Juste dans l'historique, il y a le record absolu des Oscars, c'est 11 Oscars chacun pour 3 films qui ont obtenu 11 Oscars. Hein, c'est le grand record.
Moi, je dirais il y a Titanic.
Il y a Titanic, oui. Ouais. Il y a aussi, il faut remonter à très très longtemps.
Autant n'importe le vent ?
Non.
Un
péplum.
Bénur,
oui. Oui. Et puis récemment, c'est Le Seigneur des Anneaux, le 3, Le Retour du Roi,
d'accord.
Qui a obtenu 11 Oscars. Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, c'est le seul qui a remporté tous les Oscars pour lesquels il était nommé.
Ah oui.
Donc on appelle ça un clean sweep, c'est un grand nettoyage, c'est-à-dire qu'il
strike.
A raflé tous les Oscars.
Ah, oui.
Et puis sinon, alors on n'aura plus jamais le Big Five. Alors qu'est-ce que c'est le Big Five ? Les Big Five, c'était un film qui remportait les 5 grandes catégories, donc film, réalisateur, acteur, actrice, scénario. Il n'y a que 3 films qui l'ont fait, dont Vol au-dessus d'un nid de coucou et puis Le Silence des agneaux, avec Jodie Foster, Anthony Hopkins.
Et pourquoi ?
Alors ça ne pourra plus jamais se faire, parce qu'aux Oscars comme aux César, on ne remet jamais pour le même film le prix du film et du réalisateur. Ça a été voté comme ça.
C'est un peu logique.
Bah oui, parce que sinon,
c'est à peu près la même chose.
Prix pour le même film.
Oui,
Donc voilà, ça c'était. Voilà, ça se, on ne verra plus jamais 5 Oscars, les 5 principaux Oscars pour un film. Voilà.
Très bien.
Voilà, voilà, pour les petites indiscrétions.
Eh bien, merci Olivier. Dans un instant, on sera en slip avec Caro et on dira oui à Mathias. Mais avant, c'est le Graal. Vous nous avez demandé comment bien faire caca. Ben voyons.
Oh non.
Eh oui, voici la réponse du Graal.
Question de Jacob Delafont. Comment bien faire caca ?
Eh ben là, on n'est pas dans la... avec ta question. Il y a bien un tabou dans la civilisation occidentale, c'est bien les toilettes. Il n'en est pas de même partout, mais dans la majorité des cas, on préfère faire ça seul et ne pas en parler, sauf au détour d'une blague bien grasse. Pourtant, c'est une grande partie de notre vie, car nous y allons 2500 fois par an, soit au final près de 3 ans de notre vie. La moyenne pour les femmes est d'y rester 3 minutes et 2 pour les hommes. Mais alors, y a-t-il une bonne façon de faire ? La réponse est oui. Il faut laisser faire la gravité. Que ce soit pour le liquide ou le solide, rien ne sert de pousser, vous pourriez abîmer votre corps. Donc allez-y tranquille, en laissant faire les choses. Quant à la position, les Turcs ont tout compris. En étant accroupi, le canal est plus ouvert. Sur des toilettes en siège, utilisez un petit banc pour remonter les pieds. Vous faciliterez les choses. Eh bien voilà une chronique bien torchée. Vous retrouvez le Graal dans Question Graal sur Instagram et Facebook. Vous êtes toujours dans CMA et on revient sur les origines des choses. Alors de dire qu'elle est à la mode, bon, c'est bateau. Hein. De dire qu'elle est fashion victime, bon, c'est petit. Mais avant de parler de vêtements, on parle de sous-vêtements. Voici la chronique de Caroline.
Petit bateau, voyage sans loi ni peine. Esquive-moi tous ces vieux rafiaux qui n'attendent que ta perte, petit bateau.
Rien à voir avec les vêtements non plus, hein, mais ça dit petit bateau.
Oui, c'est ça, mais oui, oui, oui. Eh bien oui, ce soir, on va voir Petit Bateau. Bien, Petit Bateau, c'est une marque culte que tout le monde connaît, n'est-ce pas ?
Oui.
De sous-vêtements pour enfants à la base, puis pour adultes, et également de vêtements maintenant. C'est une marque qui reflète l'insouciance, l'espièglerie et le confort surtout. Et c'est en 1893 que tout commence, lorsque Pierre Valton ouvre une usine de bonneterie à Troyes, près de Paris. En 1912, l'usine crée des sous-vêtements en coton lavable, qui remplace ainsi la laine, moins confortable, mais majoritairement utilisée en France et en Europe. Et c'est en 1918 que tout va changer, grâce à Étienne Valton, le fils, qui s'inspire de la célèbre comptine « Maman, les petits bateaux ».
Ah, ça vient vraiment de là ?
Oui, pour trouver le nom. Et dans un deuxième temps, avec la phrase « Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes ? Oui. Mais non, mon gros bêta.
Tu chantes magnifiquement bien.
Oh mon Dieu. Ouais. Eh bien, en fait, quand il dit ont-ils des jambes ? Mais non, mon gros bêta, il lui est venu l'idée, en fait, de couper justement les jambes des caleçons longs de l'époque pour en faire du court. Et c'est devenu ainsi la première petite culotte. Voilà.
Okay.
Par la suite, il a ainsi remplacé les boutons pour mettre un élastique et la première vraie petite culotte pour enfants est née. Voilà. Et la petite culotte, donc, elle a remporté le grand prix quand même de l'exposition universelle de Paris en 1937. Donc évidemment, ça a participé à faire un
mais,
succès
mais
énorme.
Mais avant, il y avait des petites culottes qui existaient. Qu'est-ce qu'elles ont de particulière, ces culottes ? Non, elles étaient longues.
En fait, c'était les caleçons longs, en fait.
Ça n'existait pas. Les petites culottes, ça n'existait pas.
Les panties, ouais, c'est ça. Non, pas de culottes courtes, en fait. Les culottes, c'était vraiment même bouffantes, en fait. C'était, ça arrivait quasi aux genoux, en fait.
Et quelle année, tu m'as dit ?
37.
Donc avant 1937, on n'avait que des caleçons longs, en fait. Pas de petites culottes.
Ouais, c'est ça.
Ok.
Oui, oui, c'est vrai que quand on recadre, ça fait pas si loin que ça.
Bah
et en même temps, eh bien oui, première petite culotte à cette période. Pour le logo, au début, c'était celui d'une petite fille qui s'appelait Marinette, puisqu'en fait, la petite culotte était associée exclusivement aux enfants, aux petites filles ou aux féminins. Ensuite, il a demandé à sa jeune nièce de dessiner un bateau, tout simplement, pour être un peu plus raccord avec le nom de la marque.
Ah, j'espère qu'elle a touché un peu quand même. Il fait travailler sa nièce, t'imagines ?
Quand même,
il fait le logo
elle doit avoir
tout
des peurs, la petite, là.
Ah oui, quand même.
Alors, la marque, dans sa lancée, poursuit son objectif de qualité et de praticité. Ainsi, en 1950, Petit Bateau invente l'emmanchure américaine. Alors, ça parle à toutes les mamans du monde. Ça permet d'enfiler facilement le body par la tête. En fait, ce sont deux larges tissus en colure bateau, si vous voyez, qui sont un peu longues, mais qui se croisent, qui permettent ainsi de faire une ouverture plus grande.
D'accord. Bah, nous, ça ne nous parle pas, nous, mais bon, je pense que ça parle effectivement à ceux qui ont déjà vécu ça.
Voilà. Et ils ont aussi inventé les boutons pression au niveau de l'entrejambe pour permettre de changer exclusivement la couche sans défaire tout pour le bébé.
Ça, c'est pratique.
Donc, des petites révolutions qui, en fait, ont créé la success story de la marque. Enfin, dans les années 80, l'entreprise est au bord du dépôt de bilan. Elle est donc rachetée par le groupe Yves Rocher. Mais c'est dans les années 90 qu'il y a un petit coup de génie comme ça. Le retour du minimalisme. Donc, on voyait chez les Américains Calvin Klein qui sortait les sous-vêtements blancs, noirs, hyper confort, etc. Mais en France, c'est Karl Lagerfeld qui fait défiler Claudia Schiffer avec un t-shirt blanc d'enfant en coton de la marque Petit Bateau, sous un tailleur Chanel. Et là, c'est le succès immédiat, en fait. La marque est quasi obligée de sortir le même t-shirt pour adultes à cause de la demande, en fait.
D'accord.
C'est dingue.
Tout le monde voulait ressembler à Claudia Schiffer avec son petit t-shirt Petit Bateau.
Mais
voilà.
C'est marrant qu'une marque utilise une autre marque dans un défilé.
Ouais, c'est ça. Bah, parce qu'en fait, Petit Bateau, c'était vraiment la marque des bons basiques.
D'accord.
Voilà. Donc, dans les années 2000, les vêtements adultes sont développés. On connaît bien le ciré jaune, la marinière, dédicace à Manu, le caban qui deviennent des must-have. Alors, il faut savoir que Petit Bateau, c'est 28 millions de pièces vendues par an, 6,5 km de fil de coton pour un t-shirt,
oh la vache.
4000 tonnes de mailles tricotées chaque année. Alors, Petit Bateau, c'est aussi une petite tourmente lorsque la vague du Made in France arrive, puisque bien que le siège est à Troyes et que le QG du stylisme est à Paris, la production, elle, est au Maroc. Ce qui fait un petit peu défaut. Donc la marque a dû corriger ses étiquettes tout en conservant son image très française. Donc maintenant on peut lire créé à Paris ou designé à Paris et non fabriqué en France ou à Paris comme c'était écrit avant. Voilà.
Alors, ils auraient mieux fait de relocaliser. Ça aurait été mieux quand même.
Ah bah ouais, mais
ouais,
ça.
Ouais, faut pas rêver.
C'est un gros débat quoi. Alors malgré ce nuage noir, Petit Bateau a su rester à flot et garder le cap. Et comme beaucoup de marques...
Je crois que c'est elle qui fait la com de Valérie Pécresse.
Méchant là.
Et évidemment, ils ont utilisé une stratégie que beaucoup de marques a choisi dans les années 2000-2010 en fait, pour se remettre un petit peu à flot. C'est d'utiliser les collaborations avec des artistes. Donc je vous en avais parlé déjà précédemment. Et donc, particulièrement avec des créateurs. Donc, on a retrouvé Maison Kitsune. Donc, c'est les créateurs qui ont les petits logos renard. Je ne sais pas si vous voyez sur les pulls.
Nice.
Des rôles. C'est un artiste un petit peu qui fait des fruits, etc. Et les studios Ghibli même.
OK.
Voilà. Et grâce à ça, un petit bateau retrouve quand même une petite image de marque assez moderne avec, en gardant son image de petit basique.
Il y a beaucoup d'adultes qui achètent des petits bateaux.
Ça marche énormément.
D'accord.
Ouais.
Moi, je ne me viendrais pas à l'idée d'acheter
un petit
bateau.
Ah oui, il y en a un sur Angers, oui.
Ah ouais.
Il y en a, et puis Internet, ça marche beaucoup. Ouais. Il y en a, il y a un corner aux Galeries Lafayette.
D'accord. Moi, j'étais encore aux petites marinières pour enfants, mais donc apparemment...
Non, bah, disons que c'est super confortable, en fait. Donc, même les peaux sensibles, un peu allergiques, etc., c'est vivement recommandé.
Ok, bon, écoute.
Voilà. Tout le monde doit avoir son petit bateau.
Oui, merci Caroline. Il a une moustache, son petit ami est plombier et a aussi une moustache, on n'est pas loin des Village People. Sur Angers, il prend le tram en chantant « Here we go !» Mais sur un plateau, eh bien, voici la chronique de Mathias.
La princesse Peach a besoin de moi, mais pas de chance, les astres sont trop bas. J'aurais besoin d'une force hors pair. Mais d'abord, je me dois de sauver mon frère.
C'est top des prix.
Tout à fait, c'est ça, ouais. Mario, voilà. Mario sous Prozac.
Oui.
Mario Prozac, c'est la nouvelle version. Oui, on t'écoute.
Oui.
Va enchaîner avec ça.
Oui, c'est un peu compliqué, j'avoue. Que... du coup, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bientôt, dans Mario Kart, il va y avoir des nouvelles pistes. De jeux, des jeux remasterisés, des...
Sonia des Mario Kart, tu vois ce que c'est ?
Oui.
Ok, c'est voilà. Bon. Validé.
Du coup, je me suis dit, ça pourrait être sympa de savoir d'où venait Mario. Donc, connu de tous et de partout, Mario fait ses débuts dans l'univers du jeu vidéo en 1981.
Ah, c'est pas si vieux, en fait.
Oui,
80.
Il a 40 ans.
Oui.
Et il est apparu, en fait, dans le jeu Donkey Kong sous le nom de Jumpman.
Ah,
donc rien à voir.
Ah, c'était pas le héros en fait. C'était le singe le héros du coup.
Non, c'était lui le héros.
Et il s'appelait Donkey Kong, ça s'appelait pas Mario.
Oui, mais alors en fait, c'était l'histoire d'un charpentier, donc lui.
Oui, c'est vrai.
Qui, euh, qui devait sauver sa petite amie Pauline, qui était prisonnière de son
Pauline.
Singe domestique.
Oh, et oui, Pauline. Bon, allez, quand on fait un petit bonjour à notre chroniqueuse Pauline.
J'ai joué à ce truc-là.
T'as joué à Pauline?
Non, les petites manettes là, avec Donkey Kong et ça.
Ah, les double, Mario qui courait. Les double screen là, les, ouais, les deux écrans.
C'était Mario, ça.
Et bah, du coup, en fait, le principe était qu'il devait monter les étages par des échelles en évitant les obstacles.
D'accord.
Donc, c'était un écran figé, hein, tout simple, avec un décor.
Avec les musiques. Voilà.
Il y avait des petites boules, des petites billes, il fallait. Qui descendent, ouais. Enfin, les petites billes, il fallait les sauter.
C'est ça. Les boules.
Des boules qui
les boulets, les boulets envoyés par le Donkey Kong. Ouais,
Moi, ça me fait rire quand j'ai vu que c'était son singe domestique, quand même. Enfin,
ah bon, d'accord. Oui. C'était présenté comme ça.
Oui, c'était présenté comme ça. C'est son singe, en fait, qui a piqué Pauline, enfin, et qui.
Ok.
Du coup, d'après le compte-rendu du concepteur, du coup, le métier de Mario n'a pas été choisi au hasard. Il devait s'intégrer à la conception du jeu. Donc initialement, après que Donkey Kong soit installé sur un chantier de construction, Mario s'est transformé donc en menuisier pour s'intégrer dans le décor et que ce soit cohérent. Quoi,
d'accord.
Donc ça collait parfaitement avec l'idée de le présenter comme un travailleur acharné et le fait de le démarquer des autres personnages. Enfin, voilà. C'était pour lui donner une personnalité quoi, cohérente. C'est ensuite en Mario Bros qui est devenu plombier.
C'est bien, il a changé de boulot.
Ah ouais, reconversion.
Ah, reconversion professionnelle,
ouais,
c'est bien.
Ouais.
Jusqu'au brosse, ah bah oui.
Tu peux te brosser, Marc.
Tu peux te brosser, oui.
C'est vrai que c'est une très bonne question, je n'ai pas la réponse.
C'est les frères.
Non, oui. Y a pas. Mais les plombiers, ils brossent, qu'est-ce que tu veux? Ça lave. Vas-y.
Non, mais c'est parce que Mickey Mouse.
Oui, oh, c'est ça.
Non.
Eh
voilà,
bon, bah, ouais. Oui.
C'était oublié. Pardon.
Enchaîner.
Oui, je suis un peu en dépression.
C'est ça.
Du coup, donc il est devenu plombier dans Mario Bros. Pour se fondre encore dans les corps, car cette fois-ci, la majorité du jeu se déroulait dans des installations souterraines et à New York. Du coup, avec des tuyaux, tout ça. Donc
voilà, plombier.
Enfin, plombier. Okay. Et cette fois-ci, il allait sauver la princesse Peach. C'est là où elle est arrivée.
Rip Pauline.
Rip Pauline, effectivement.
Ah oui.
Et ce jeu a été créé par Shigeru Miyamoto.
Oh, tu l'as dit.
J'ai réussi à le dire. Je me suis entraîné tout l'après-midi. Hein, pour ceux qui ne savent pas, ça a été un défi. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi Jumpman est devenu Mario? Son prénom a été changé en Mario.
Ah.
Parce que son neveu il s'appelait Mario.
C'est
un super nom.
Ouais,
c'est pas son neveu.
C'est l'Oscar.
C'est comme la famille.
Son fils.
Non plus.
Son petit copain.
Son maman non plus.
Non.
Non. Alors en fait, c'était le nom du propriétaire des locaux de Nintendo à l'époque. Il s'appelait Mario Segali. Et ce que j'ai trouvé en cherchant encore un peu plus,
c'est plus fort que toi.
Apparemment, ils avaient du mal à payer le loyer à cette époque-là. C'est un peu compliqué, hein. C'est pas comme aujourd'hui.
D'accord.
Jeux vidéo.
Il avait une moustache.
Et, alors, je sais pas s'il avait une moustache, mais en tout cas, il s'appelait Mario Segali.
Donc je donne ton nom à mon jeu, et puis comme ça, ça permet.
Alors, je sais pas s'ils sont vraiment négociés ou si c'était juste pour lui faire un petit clin d'œil.
C'est
enfin,
c'est jouable, ouais.
Voilà, ça naît de là.
C'est pas très japonais, Mario, comme prénom.
Ben justement, c'est bien. Ah, c'est international.
Ouais.
Du coup, il y a eu des rumeurs. C'était ça. J'ai perdu le fil. J'ai appris du coup au cours de mes recherches que le look de Mario était lui aussi calculé. C'était pas dû au hasard. D'après vous, d'où vient la casquette rouge? Pourquoi c'est cette casquette parce que c'est quand même une grosse
casquette.
C'est
vrai,
hein,
avec un M dessus.
Ouais. Est-ce que vous avez des idées?
Casquette de Mario.
Casquette rouge.
Je sais pas, un plombier avec une casquette.
C'est un clin d'œil à quelque chose.
Des plombiers italiens, ils sont
techniquement
comme
ça, pour les ordinateurs ou pour les. Il fallait que ce soit rouge, non? Il y a pas.
Au départ, c'est vrai. Des fois, ils faisaient des costumes pour éviter qu'il y ait trop de pixels ou trop de choses comme
ça. C'était ça. Ouais. C'était en fait pour éviter de lui dessiner des cheveux, parce que les cheveux, quand le personnage il saute et qu'il avance, faut faire des mouvements avec les cheveux et tout. Et en fait, en mettant une casquette, ça évitait les sourcils et les cheveux.
C'est pas con.
Donc ça a simplifié quand même vachement le personnage.
D'accord.
Et c'est pareil pour la moustache. Et il a un gros nez, une moustache, et en fait, ça évite de faire la bouche. Donc ça évite qu'il ait des expressions, des choses comme ça. Donc ça faisait un personnage vraiment en pixels, parce qu'à l'époque, en plus, c'était vraiment des gros pixels.
D'accord.
Mais c'était tout simple.
Il a pas de bouche.
Il n'a pas de bouche, Mario.
Non, il n'a pas de bouche. Bah maintenant, il en a une, parce que le personnage a évolué en 3D. Voilà.
On l'a fait pour
manger. Mais à l'époque, non. Et du coup, la couleur rouge et bleu, c'était pareil, c'était fait pour qu'il se démarque du décor. Parce que avec tous ces pixels, enfin, les jeux n'étaient pas très clairs à l'époque.
D'accord.
Hein. Donc les décors étaient très verts, jaunes, oranges. Et lui, du coup, il ressortait en rouge et bleu dessus.
Ok.
Donc dans les grandes lignes, il faut savoir que dans la série Mario, ils ont été très précurseurs dans le monde des jeux vidéo. La plupart des jeux étaient par exemple sur des fonds figés. Les premiers jeux vidéo, on avait un fond, un décor, et il y avait une action devant.
Avec Donkey Kong,
comme avec Donkey Kong, le singe en haut, les échelles, il fallait grimper, l'écran ne bougeait pas. Ça a été les premiers qui ont fait un écran qui avançait.
D'accord, un jeu de plateau.
Un jeu de plateau, il fallait avancer. Et alors c'était hyper bien calculé parce que le personnage atterrissait à gauche, tourner vers la droite, donc d'instinct le joueur comprenait qu'il fallait qu'il avance vers la droite.
D'accord.
Et ils ont mis plein de codes comme ça en fait qu'aujourd'hui ça nous paraît tout à fait naturel, mais qu'à l'époque
c'était nouveau.
C'était nouveau. Et c'est aussi eux qui ont créé les jeux en 3D avec le joystick pour se déplacer, parce qu'avant on se déplaçait avec les flèches directionnelles, donc haut, bas et sur les côtés. Et eux ils ont vraiment lancé le concept du jeu en 360 degrés
Et puis analogique j'imagine, donc plus on fait plus ou moins fort, alors qu'avec les touches c'était j'avance ou j'arrête.
C'est ça, c'était brut quoi.
Ok, donc c'est eux qui ont inventé ça pour Nintendo.
Sur la Nintendo 64 c'était hyper canon en 96 et c'était super révolutionnaire.
Okay.
Et ils ont fait des super ventes à ce moment là Depuis on a vu Mario transformer en chat, faire du tennis, il a fait des courses de voiture, manger des champignons pour devenir très grand ou très petit, et même sur nos téléphones, et je pense que cet ancien menuisier n'a pas fini de faire parler de lui.
C'est clair, c'est mieux que Martine, il y en a partout. Très bien, merci Mathias. Allez, c'est l'heure de la musique. Est-ce que c'était mieux avant ou après? Eh bien, elle reprend sa mission musicale. Voici la chronique de Sonia.
Bonjour les petits clous.
C'est ça.
Oh non.
Ah là oui, un peu avec
bah oui, on est un petit peu là-dedans finalement ce soir parce que j'ai décidé de vous proposer un petit aperçu de titres musicaux qu'on peut dire peut-être les plus repris au monde. Et parmi ma sélection de ce soir, il y a un petit Frenchie. Alors, à la base, il y a, je dirais, un petit top de 10 chansons les plus reprises au monde. Moi, j'en ai sélectionné 3 parmi le top. Est-ce qu'à tout hasard comme ça, vous pourriez me dire, selon vous, une chanson, un titre?
Alors, moi, je me souviens de Yesterday, on en avait parlé il y a quelques émissions, effectivement, qui avait été bien reprise,
de
Beatles. Francis
Cabrel, là.
La vie au soleil de Claude François.
Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. Je l'aime à mourir.
Au monde, je parle.
Au monde, ouais.
Ah, c'est au monde, oui.
Avec Shakira, Cabaret. Tout ça.
Alors, il y avait eu des reprises, effectivement.
My Way, on avait dit aussi. My Way.
My Way de...
De Frank Sinatra. Ouais. Mais au départ...
D'accord.
Je parlais d'Anna Mouskouri.
Et pourquoi pas Nana Mouskouri. Alors,
bon.
Quand je parlais d'un petit Frenchie, effectivement, il a été cité, donc il y a Clo-Clo. Ah. Mais on va y revenir parce que la chanson My Way, ce n'est pas Sinatra, c'est Clo-Clo. Donc on va en parler. Donc je commence avec cette chanson. Donc effectivement, elle s'appelle à la base Comme d'habitude. Et je vais raconter son histoire. Mais oui, c'est ça l'histoire des reprises.
Oui, alors c'était la première, on l'entend. On passe à la deuxième.
Non, je veux bien avoir le retour, parce que moi j'entends rien. Merci. Alors, comme d'habitude, c'est une chanson qui a été écrite par Gilles Thibault et Claude François, et donc interprétée et sortie en novembre 1967. Donc, pour retracer un peu l'histoire, cette chanson, donc, elle rencontre le succès, elle gagne ensuite une réputation internationale à travers son adaptation ensuite en anglais par Polanka, qui est le premier à l'avoir ramenée aux États-Unis. Et ensuite, effectivement, cette chanson, il la propose à son ami Frank Sinatra, qui la reprendra en 69. Alors, le texte raconte, peut-être vous le savez, mais je vous le dis si vous ne le saviez pas, la vie quotidienne d'un couple qui se délite, résumant spécifiquement, à l'époque, la récente rupture sentimentale de Clo-Clo avec France Gall. Effectivement. Donc, la chanson avait été proposée en première intention par les personnes qui avaient écrit la chanson pour Hervé Villard. Et puis, ils voulaient quand même bosser avec Clo-Clo. Donc, ils l'ont proposé à Clo-Clo qui a dit « Ben, moi, je veux bien ». Et ils ont demandé à Hervé Villard de se retirer. Parce que malgré tout, il avait été le premier à...
Bonne décision.
C'est horrible. Voilà. Donc, elle est sortie donc en novembre 67 et elle s'est vendue à plus de 200 000 exemplaires. Alors, cette chanson, elle s'est retrouvée outre-Atlantique parce que donc le père de Polanka à l'époque était venu en France pour les vacances et il a écouté ce tube et il a dit à son fils « il faut que tu la reprennes ». Et donc, effectivement, ensuite, elle s'est transformée, elle a été réadaptée en anglais sous le titre de « My Way ». Et effectivement, cette chanson, on a l'impression que c'est eux... le début de l'histoire, mais non, c'était notre Clo-Clo, on va dire. Et quand même, selon la SACEM, comme d'habitude, reste la chanson française la plus exportée. C'est quand même impressionnant. Enfin, moi, j'étais... Voilà. Alors, parmi les reprises, on a pu également entendre de cette chanson, comme d'habitude, donc il y a Frank Sinatra, les Gypsy Kings. Faudel, Khaled et Rachida aussi qui avaient repris la chanson. Vous avez pu entendre aussi le groupe Pekombo, un groupe japonais. Et puis David Bowie. Now, the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off all I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing. Now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. He got, if not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the ça. Hello Sunshine, on peut l'entendre en fond, qui est une chanson de Bill Withers. Alors Hello Sunshine donc, est sortie en 71 sur son premier album, et c'est l'une des 500 une chanson qui se retrouve effectivement, selon le magazine Rolling Stone, comme l'une des chansons aussi les plus importantes et les plus diffusées, surtout sur les radios britanniques. La version originale de la chanson est interprétée, donc je vous le disais, par Bill Withers, l'un des plus imminents ténors de la musique soul des années 70. Alors moi, je ne me rappelais pas de lui particulièrement, mais la chanson, elle est marquante.
C'est connu, hein.
Et du coup, à l'époque, il travaillait quand même, Bill Withers, pour l'usine fabricante des sièges de toilette pour des Boeing 747.
D'accord, ça
finalement, m'a rien à voir, mais quand on a le don, on l'a. Il avait également initialement l'intention d'écrire davantage de paroles pour le passage où il répète l'expression quand même « I know, I know, I know, I know, I know ». 26 fois, mais les autres musiciens lui ont conseillé comme de laisser la chanson en l'état, et du coup...
Non mais c'est pas grave, les auditeurs entendent, t'inquiète pas.
Bon. Cette chanson illustre donc une scène du film Coup de foudre à Notting Hill et une autre de la série The Boys, donc peut-être les auditeurs entendront, donc Ben Harper, Michael Jackson, c'est la soupe et Joe Dassin.
Voilà. Ça c'est Ben Harper. Michael Jackson, c'est ça?
Oui.
Ah, écoutez, oui, c'était Jackson 5.
Jackson 5,
ouais. Ouais. Ok.
Et donc ensuite.
Ok. Alors ensuite, nous avions.
Et donc une autre chanson, moi, qui m'a beaucoup marqué, que j'adorais, c'était la chanson Killing Me Softly with His Song. I heard he sang a good song. I heard he had a star, and so I came to see him, to miss him for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on. Première attention, c'est Laurie Lieberman qui va interpréter cette chanson fin de l'année 71. Avec quelque chose de très calme, de très posé, mais voilà, et c'est Roberta Flack, qui va effectivement en faire ce tube et ce succès qu'on retiendra ensuite avec une voix soul. Donc elle va la sortir en 73 et ça lui a valu entre autres trois Grammy Awards pour cette chanson. Et puis on va retrouver après cette chanson qui va être remise au goût du jour en 96 avec la reprise des Fugees sous le titre Killing Me Softly, puisqu'ils l'ont raccourci légèrement. Et elle va rester notamment en tête des ventes pendant 5 semaines au Royaume-Uni. Alors parmi les reprises de cette chanson, on peut également entendre donc, ce que je vous disais, Roberta Flack, les Fugees, et puis de façon un peu plus surprenante, Gilbert Montagnier. On a aussi une version plutôt créole avec Jacques Darbeau, c'est sympa aussi. Et puis je vous propose aussi une version finnoise pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais bon, cette chanson elle a été reprise en toutes les langues, en français, en italien, enfin voilà, je fais juste un petit aperçu, mais en tout cas voilà ce que ça peut donner, une chanson quand elle a du charisme, et bien voilà, tout le monde va la reprendre.
C'est vrai.
Merci Sonia. Vous êtes dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. On a parlé des Oscars, de Petit Bateau, de Mario et de reprises musicales. Si vous avez raté le début, hein, il est déjà disponible sur le site de Radio G, rubrique émission puis CMA. C'est le moment de la deuxième partie d'émission, sommaire. Il a pris celle des champs avec sa future maison en pleine campagne. Il daigne passer encore un peu en ville. La porte lui est grande ouverte. Bonsoir Florian, quel est ton sujet ?
Bonsoir. Combien de fois les avez-vous cherchés ? Combien de fois les avez-vous oubliés ? Ce soir, je vous parle des clés, ces objets indispensables de notre quotidien qui ont façonné des millénaires de civilisation pour le meilleur ou pour le pire.
Ok. On parlait de circuit tout à l'heure avec Mathias. Elle roule sa bille dans l'émission. Bonsoir Sandra, de quoi parles-tu ?
Bonsoir, je vais vous parler d'un jeu de récréation aussi célèbre que le jeu de vidéo de Mario.
Ah, ok, on en parle tout à l'heure. Et bien sûr, un nouveau Graal, on répondra à la question de Raphaël qui nous demande d'où vient la bande pastille. Eh bien, c'est temps, je vais vous verrez. Allez, voici la deuxième partie de CMA. Sur Internet, pour ouvrir une page, ou du moins pour la trouver, il faut des mots-clés. Pourtant, une clé sert surtout à fermer, va comprendre. En plus, on ne sait même pas comment ça s'écrit. Il était donc important de revenir à son origine. Voici une des clés de voûte de l'émission, Florian.
Ce n'est pas facile de te faire entrer, mais je vais quand même essayer.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu celle-ci. Hein.
C'est qui ?
Oui,
dis-nous. Enrico Macias.
Ah bon ?
D'accord, ok. Eh ben, je me sens vieux d'un coup, là.
L'enfant, il n'est pas connu.
Ah non, l'enfant n'est pas connu. Non, non, c'était un...
Je commencerai cette chronique par un coup de gueule.
Ah !
Non à la disparition de la lettre F au bout du mot clé. Tu l'as dit, Bruno, effectivement, ça s'écrit de deux façons différentes. Je ne souhaite pas que cette lettre subisse le même sort que le E du roman de Georges Perec que vous aurez retrouvé.
Ça devient culturel, cette émission.
Oui, j'ai mal à la tête, là.
C'est un roman où il n'y avait plus de E du tout.
Ça s'appelle La Disparition. Il avait écrit tout son roman sans la lettre,
E, ce qui est un exploit.
Voilà. Mais comment ça, on n'entend pas le F dans clé ? Et alors, un peu de respect pour l'histoire de ce mot, issu du latin clavis et vite déformé en clève, clef. Donc clé, en fait, voilà.
D'accord. Enfin, c'était un V au départ. Hein.
Bah, c'était donc, un V, c'est devenu un F.
Mais voilà. Donc, bon.
Donc maintenant, on l'écrit plutôt clé, C-L-E. Hein, le F est parti depuis maintenant des années.
Mais on a le droit.
On a le droit, bien sûr. Oui. D'ailleurs, vous êtes de quel team en fait ? Clé sans le F ou clef ou clé avec le F ?
Et. Et simple. Ouais, je crois.
Ok. Mon correcteur, il m'a mis. Moi, donc c'est.
Ah oui. Super. Si en plus le correcteur s'y met.
Bah ouais. À côté du micro, ce saut.
Bon, ok, on l'écrit de façon différente. Autre question, combien vous avez de clés à vos trousseaux ?
Oh la vache, au moins une dizaine.
Une dizaine, ok.
Aussi,
une dizaine.
Ouais. Me dis pas qu'il y a des statistiques qui ont été faites là-dessus.
Moyenne de 5, non ?
5, d'accord. Alors, je n'ai pas trouvé d'études sur le nombre de clés.
Vraiment, il y a des gens qui n'ont rien à foutre.
Mais j'ai trouvé un forum où une personne demandait aux autres combien ils avaient de clés sur leur trousseau. Et il y a eu des réponses entre 3 et 17. Ouais. Effectivement, quand t'es gardien d'un lieu, t'as plein de
clés. Ah bah oui, oui, c'est plein de gardien de prison, ça doit être fait. Ouais.
T'as un peu passe-partout, en fait. T'as un peu toutes les clés du fort. Voilà, mais effectivement, on peut avoir aujourd'hui pas mal de clés sur son trousseau. Ouais. Comme quoi, hein, c'est un objet qui est vraiment devenu indispensable aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez que la clé est d'abord un signe de possession et de pouvoir ? Elle permet d'accéder à des endroits privés, des endroits privilégiés ou à ouvrir des éléments dans lesquels on cache ses trésors. À l'époque romaine, d'ailleurs, au moment du mariage, l'époux faisait présent d'un trousseau de clés à sa future épouse, qui devenait alors la maîtresse des affaires de la maison. Et en échange, de son côté, la mariée offrait une clé au mari en symbole de l'accès à sa chambre.
Bah, ou de la ceinture de chasteté.
Ah, effectivement, ça sert aussi en chasteté, effectivement. Comme quoi, voilà, la clé, c'est vraiment ça. Alors, l'apparition des clés, elle suit d'abord celle du verrou.
Oui, c'est ça.
Oui, parce que la clé toute seule, elle ne sert à rien.
Oui, forcément, en fait, voilà. C'est clair.
Donc, d'abord, au néolithique, on a inventé le verrou. Donc, en fait, c'était juste une tige de bois. Donc, ça s'appelle le pen.
Ok.
Qui entrait dans un trou en face. Oui, je suis désolé.
Ok.
Sur un montant fixe. Et ça, c'est la gâche. Voilà.
D'accord.
Donc c'est juste le mouvement d'entrée-sortie dans ça, et ça fermait effectivement une porte. Puis après, on a inventé la serrure. Et pour ouvrir la serrure, bah, fallait une clé. Donc on s'est dit, tiens, si on mettait des clés différentes, avec des embouts différents, en fait, de la clé, et donc on a inventé la clé comme ça. Donc à l'époque, on pose des verrous partout. Enfin, partout, non. Surtout sur les silos à grains, en fait, là où il y a vraiment des choses importantes. Hein.
C'était en fer, du coup, après, ou c'était...
Alors au départ, le verrou, c'est en bois.
D'accord.
Et très vite, oui, très vite, c'est en fer, les serrures sont en fer, et les clés ont toujours été en fer.
Plutôt métallique.
Voilà, parce qu'on connaissait déjà le fer, en fait, on savait déjà travailler le fer. Donc les clés sont depuis l'origine quand même en fer. Donc on met des verrous sur les silos à grains, sur les édifices religieux, les édifices de pouvoir. Et donc elle crée des zones non accessibles et elle participe à la distinction des classes, des richesses et de la structuration finalement de la société dans son ensemble. Puisque les riches ils mettent des clés partout pour pas que les pauvres accèdent aux richesses.
Forcément.
Et les pauvres ne mettent pas de verrou ni de clé, de toute façon il y a rien à piquer, donc
mais il y a les prisons aussi de donc, toute voilà. façon aussi
on et puis il y a les prisons fermer. Effectivement pour garder, enfin voilà, c'est on est toujours sur cette idée de pouvoir et de possession de quelque chose. Donc la clé est bien moins innocente qu'elle n'en a l'air. Elle est à l'origine de nombreuses des misères de ce monde et des civilisations qui nous ont précédés. Avoir une clé, donc, c'est posséder et suscite les convoitises en plus, les cambriolages, tout ça, donc on renforce encore plus le fait de mettre des clés et des choses sécurisantes. L'essor du droit de propriété va nécessairement favoriser aussi l'âge d'or de la clé à partir du XVIIe siècle. Elles deviennent même des objets d'art. Les serrures sont des objets d'art, en fait, on forge des serrures, et les clés suivent aussi, on fait des clés magnifiques pour ouvrir des coffres, pour ouvrir des portes, tout ça. D'ailleurs, est-ce que vous savez quel roi de France était fou de serrurerie et fou de clés ?
Alors, je sais pas.
C'est assez connu, effectivement. Sonia l'a dit.
Ah, Louis XVI.
C'est Louis XVI, oui. D'accord. Il s'était fait aménager une petite forge, donc dans les étages du château de Versailles, tout en haut, dans ses appartements privés, au dernier étage de Versailles. Et donc, il avait une petite forge et il faisait des serrures et des clés, voilà.
D'accord.
Il les faisait et puis il cherchait comment ça fonctionnait et tout ça. C'était sa passion, entre autres. Donc là, les clés étaient plutôt rondes, en fait, hein, jusque-là. Il faut attendre 1861 pour voir apparaître les premières clés plates, parce qu'aujourd'hui, on a des clés plutôt plates, quand même.
Oui.
Elles sont pas rondes, il y en a quelques-unes, mais... Et donc, c'est l'Américain Linus Yale qui dépose le brevet de la serrure cylindrique à goupilles, s'ouvrant avec une clé plate crantée. Et donc, c'est les clés qu'on a aujourd'hui. Donc maintenant, il existe plein de clés différentes. Il y en a même des plates avec des trous dedans. Enfin, c'est plus des crans, c'est des trous.
Oui, c'est vrai. Mmh.
Donc, il ouvre. Donc, on a perfectionné les choses. Il y a plein de serrures différentes qui existent.
Puis des électroniques maintenant aussi.
Je ne fais pas la liste. Effectivement, l'électronique. Mmh. Le digicode, c'est aussi une forme de clé, d'accès. De clé, ouais. Voilà, enfin, on a multiplié les choses. D'ailleurs, la clé est tellement importante que la langue française utilise ce terme pour désigner plein d'autres choses, en gardant toujours quand même la notion d'ouverture-fermeture. Tu l'as dit, Bruno, sur le fait d'ouvrir et de fermer quelque chose. La notion de compréhension aussi, quand on a la clé de quelque chose, la clé d'une énigme, la clé de quelque chose, c'est qu'on est en capacité de le comprendre. Donc souvent, on peut garder la clé pour soi, d'ailleurs, et pas expliquer aux autres.
Mais il y a un rapport avec la musique, la clé de sol, tout ça, ce qui est...
Eh bien, la clé de sol, la clé de fa, c'est une façon de compréhension aussi, puisque ça désigne... en fait, quand on place une clé de sol, ça désigne sur quelle ligne est le sol.
D'accord.
Et donc, ça fait que tout... Enfin, on se cale sur cette ligne-là pour voir quels sont les...
C'est la clé pour comprendre le reste, enfin, pour que ça marche.
C'est ça, voilà. D'accord. C'est la clé pour comprendre le reste de la partition. Donc, compréhension, solution et de façon générale, d'accès à un lieu ou à une connaissance. Voilà. Donc, vous ne verrez plus vos clés de la même façon maintenant.
Ah oui, c'est clair.
Parce que vous participez en ayant des clés et en fermant votre porte, vous participez à perpétuer cette idée de la société, de propriété.
Alors, heureusement ou malheureusement, ça... Bon, on ne sait pas. Elles sont bien utiles quand même.
S'il n'y avait jamais eu de clés dans le monde, peut-être que le monde aurait été beaucoup plus différent.
Ça n'aurait pas eu de propriété, en fait.
Oui.
Donc,
et donc, en fait, non.
À côté du micro.
Je suis déjà de philo, donc c'est pas
effectivement,
la peine.
On rejoint effectivement des domaines quand même de philo. Voilà.
De philo.
Non, mais il y aurait... Ce serait...
Compliqué.
Enfin, ce serait liberté totale.
On va en parler pendant le Graal, si tu veux. Restez bien avec nous dans un instant. On parle de billes, justement, avec toi. Mais avant, voici un Graal qui va vous rafraîchir les papilles.
Question de Raphaël. D'où vient la menthe pastille ?
La prise de la pastille est une révolution, et elle est en juin. Raphaël, je te présente Émile Giffard. C'est un pharmacien angevin. En cet été 1885, il fait une de ses chaleurs. Il faut boire. Émile a l'idée de créer une liqueur à base de moindre poivrée qu'il ramène d'Angleterre. Il fait tester cette boisson aux clients du Grand Hôtel au centre-ville d'Angers. Et là, c'est le succès. Émile laisse alors tomber la pharmacie et crée une distillerie. Il appellera son breuvage Menthe Pastille, en référence aux pastilles de menthe en vogue à l'époque. La société Giffard existe toujours à Avrier. Elle produit également des crèmes de fruits, des liqueurs et du guignolet, à consommer avec modération, mais aussi des sirops sans alcool. C'était le Graal à retrouver en vidéo sur Question Graal sur Facebook et Instagram. On poursuit CMA sur Radio G 101.5 FM et sur Spotify. Si je me déshabille, elle dégobille. On pourrait alors être en bisbille, mais avec un petit air d'Agathe's Blues, elle nous fait son œil de chat. Voici la chronique Bille en tête de Sandra.
Je me souviens d'une bille de verre qui n'était pas piquée des verres.
Nougaro. Allez.
Bienvenue dans ma galaxie, dans ma capsule temporelle. Prenez place, chers auditeurs. N'ayez pas peur, je vais vous raconter une histoire qui ne tourne pas rond. Une histoire oubliée dans les boîtes à souvenirs, l'histoire de la bille. La semaine dernière, j'ai ouvert mon ancienne trousse en métal d'écolière et j'y ai découvert une bille bien conservée, intacte. C'est une loupe transparente qui me fait penser en fait à une boule de cristal, si vous préférez. Mmh. On va dire que c'est ma petite pierre précieuse, mon petit trophée. Souvenez-vous de la scène où Dominique Bretonneau, dans Amélie Poulain, ouvre sa boîte de jeu. Je ne sais pas si vous souvenez.
Oui, oui.
En fait, il trouve une boîte de jeu dans une cabine téléphonique. Et en fait, il se remémore sa journée tragique où il gagna toutes les billes à la récréation. Et ses poches craquèrent sous le poids des billes et il les perdit toutes. Les billes nous fascinent et nous replongent dans l'enfance. Mais depuis combien de temps existent-elles ? Donc encore une fois, alors ce sont effectivement dans les tombes égyptiennes en fait que l'on retrouve les premières billes. Donc la bille la plus ancienne a au moins 6000 ans. Mais en fait, on dit que c'est dans la Grèce antique que le jeu de billes a commencé. Et ce jeu s'appelait la tropa. Donc la tropa, il s'agissait de lancer le maximum d'objets ronds en fait dans un trou. Donc les premières billes, en fait, c'était pas les billes telles qu'on les a connues évidemment
en cours de récréation. C'était des palais, c'était plus pas, c'était des...
Alors non, les palais, c'est différent. C'est les billes chinoises, en fait.
D'accord.
En fait, c'était des olives, en fait, tout simplement. Ah, ou des
un peu ovales.
Ovales,
quoi.
Ouais. D'accord. Ou des noyaux d'olives. Enfin,
attends, ouais. C'est facile, ils avaient ça sur place.
Hein. Oui, voilà. C'est vrai.
En fait, les billes n'étaient pas fabriquées encore à l'époque. On les trouvait. Et par la suite, les Romains jouaient avec des noix, en fait. Donc, les noix au jeu de l'orca. L'orca, c'était un vase, en fait. Et avec les noix, il fallait, viser le vase et le remplir, en fait.
D'accord.
Et au Moyen-Âge, les billes, en fait, sont en bois ou en argile. Donc, on commence à les fabriquer, on va dire. On les appelle des gobilles. Puis ensuite, on enlève le préfixe go et il restera le mot bille.
D'accord, ça vient de là.
La bille prend son envol vraiment à la Renaissance et devient un objet, on va dire, plus luxueux dans le sens où il est artisanal. Donc, il est vraiment fabriqué. Au XIVe siècle, il y a des maîtres verriers vénitiens qui fabriquent des billes en verre de Murano, quand même. Mmh.
Donc avant le XVIIe, c'était plutôt en terre, c'est ça ? Il n'y avait pas de
verre ? Oui, plutôt en terre ou en argile, en fait.
D'accord. C'est qu'à partir de
À partir du 14e siècle, on va dire, il y a des maîtres verriers vénitiens qui fabriquent des billes en verre de Murano. Donc c'est un peu luxueux, c'est artisanal, on va dire.
Comme les petites billes en argile qu'on met dans les pots de fleurs, là ?
Bah, c'est possible,
presque,
oui, vrai,
c'est
presque,
vrai. Oui, voilà, c'est...
Oh, on va jouer avec ça maintenant.
Oui, mais c'est pas très rond, hein, ça roule pas super bien.
Non, voilà, c'est ça, c'est un peu irrégulier. Vers 1800, en fait, on fabrique des billes en porcelaine ou en faïence et même en marbre.
Ah, oui, mais ça casse du coup là.
Oui, voilà, ça casse, ouais. C'est pas si. C'est pas comme on pourrait dire ça, de si bonne qualité, on va dire. Et la production s'intensifie par l'invention du ciseau à billes en 1846 par un souffleur de verre. Dans les années 1900, c'est beaucoup les billes en terre cuite, en fait, qui sont fabriquées, en fait.
Mais là, tout ce qui était Murano et tout ça, c'était vraiment des objets plus de décoration. Mais on jouait déjà avec.
On jouait avec,
d'accord. Les enfants pouvaient jouer avec ça, alors que ça coûtait très très cher.
Oui, voilà, c'est ça. Mais disons qu'il n'y en avait peut-être pas énormément. Ce n'était pas dans une production intensive.
D'accord.
La production, c'est vraiment plus quand c'est la terre cuite, par exemple, parce que c'est fabriqué de façon artisanale, mais quand même, c'est moins cher, déjà. Et sinon, les billes en verre, tout simplement, avec l'invention du ciseau à billes. Sauf que là, ça devient industriel, donc forcément...
Ça démocratise beaucoup plus. Voilà.
Donc selon leur taille, les billes ont des noms différents. Alors, vous les connaissez sûrement, peut-être.
Ouais, les agates, c'était grand, non? Les agates, non.
Le calot, il y a le boulard.
Les calots, oui, les calots, voilà, c'était gros, ça. Oui.
Le calot, c'est le...
C'est l'intermédiaire.
C'est l'intermédiaire, voilà.
Et le boulard, c'est
les galaxies, non? Il y a pas un truc.
Alors ça, c'est après, les galaxies, c'est plutôt là les noms des billes. Il y a la mini-bille, on va dire. Le boulet, le calot, voilà. Ouais. Après, tu as le boulard, on va dire, qui est encore plus gros. Le maxi-boulard. Le mammouth.
Le mammouth.
Le mammouth.
Oh, et la énorme. Plus grosse bille, c'est le triard.
Oh, mais je ne sais pas si vous connaissez.
Non, c'est tout.
Et, mais c'est quelle taille, le triard?
Mammouth, ouais.
C'est un gros. C'est
bah
un
déjà,
gros
le maxi-boulard, c'est 45 millimètres.
Millimètres, 4 cm. Ah oui, d'accord.
Voilà.
Oui, 4,
donc le triard, je ne sais pas.
C'est déjà la grosse bille quand même.
Je crois que c'est 50.
Ah oui.
Alors, oui, les noms des billes. Alors, vous avez dit galaxies, c'est plus qui c'est qui a dit.
Ouais, galaxies.
Galaxie.
Ouais.
Il y a quoi
j'aime
d'autre
bien les galaxies.
Vous vous souvenez
les yeux de chat. Les yeux de chat.
Les yeux de chat, l'œil de chat, l'œil de chat, la gâte.
La gâte.
Non,
oui.
Vous en connaissez d'autres.
Le nacre. T'as dit non, il n'y avait pas nacre ou un truc comme ça. La nacre,
bah, je ne l'ai pas, mais non, peut-être. Ouais.
J'aimais bien les billes avec le truc, la petite flamme dedans. Là.
Oui, c'est ça, les yeux de chat de couleur. Les yeux de chat.
La danseuse aussi.
Ah oui.
Les danseuses. Vous ne savez pas?
Non.
Non. Bon. Bon, j'ai noté la danseuse, la gâte, la givrée, la loupe, la métallique.
Ah,
la loupe, la métallique.
Ah, et il y avait la.
Oui, voilà.
Là,
non, la métallique,
elle est tout en fer, ouais, voilà. Tout en argent. Quoi.
Et la pépite, c'est celle qui a. Oui, effectivement, c'est granité. Oui. Peu, c'était noir c'est avec des petits grains de couleur. Là. Voilà. En dehors des jeux de récréation, voilà. Donc, il y a le jeu du tir, du jeu du pot. Avec, c'était le jeu de. Dans les. Comment dire, à tirer dans le trou. Quoi. Donc, il y a les billes aussi qui sont sur les jeux de plateau, comme le solitaire ou le labyrinthe, par exemple. Mmh. Et la fabrique de billes a commencé en France, en fait, dans la Drôme, en 1876. Des billes en pierre, puis en terre cuite, parce qu'ils étaient en bon marché, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait. Et ensuite, les billes en verre, de manière industrielle. Il faut savoir que la bille n'est à l'origine qu'un grain de sable, en fait. Donc, qu'on met dans une bétonneuse et qu'on mélange avec de l'argile, du ciment, de l'eau, et qu'on fait tourner pendant 8 heures. Et ensuite, on assiste à la transformation du grain de sable en bille de terre cuite.
Ah ouais, ça se fait tout seul. Ok.
Donc pour les nostalgiques, un musée de la bille existe depuis 1985 dans la Drôme, à Mirabel et Blacon.
D'accord.
Et la bille semble avoir marqué les mémoires puisqu'elle est inscrite quand même à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France depuis 2012.
Ah oui,
d'accord.
Et le collectionneur de billes s'appelle un biophiliste.
Enchanté.
Mais c'est très français ou ça s'exporte? Est-ce qu'il y a des pays européens où on joue aussi dans les cours d'école aux billes?
Non, c'est international.
C'était romain et tout ça, égyptien, donc je pense que ça a été partout. Hein.
Oui, voilà. Et en fait, ça revient quand même parce qu'il y a des sites en fait, où il y a beaucoup de billes quand même. Alors je termine quand même par la littérature où il faut évoquer un sac de billes quand même de Joseph Joffaut.
Roule ta bille.
Qui était un récit autobiographique en fait de jeunes frères qui sont envoyés dans la zone libre durant la guerre. Et le titre vient du fait que l'auteur a échangé son étoile jaune contre un sac de billes. Ah. Et donc cette semaine, j'ai envie de changer mon prénom et je signe cette chronique Roule ta bille.
C'est ça, très bien, merci Sandra, très cool. Allez, tiens, mais qui va gagner cette semaine le CMA+ plus? Allez, c'est maintenant l'heure de la révélation.
Je vous jure que non.
Alors, à chaque émission, attention, j'y peux rien, moi j'y peux rien.
Je vais casser les gueules au bout d'un moment.
À chaque oh la vache, attention, c'est violent. Hein. À chaque émission, des auditeurs votent pour les sujets qui les ont les plus intéressés dans CMA. Histoire de bien mettre la pression sur les chroniqueurs, on délivre à chaque fin d'émission le CMA+ de l'émission précédente. Justement, il y a 15 jours, nous avons parlé du climat, des cotons-tiges, des converses, des poupées, des plantes d'intérieur et des satellites. La chronique qu'ont retenu les auditeurs, le stress, qui ont voté, est celle sur...
Les cotons-tiges.
Les converses.
Oh putain, mais oui Mais oui.
T'as changé au dernier moment, Bruno, t'as changé.
Non, c'est marqué. Les converses,
merci,
ici.
Merci. Merci, mon producteur. Dieu.
Alors, Caro a su réveiller nos souvenirs de ces chaussures mi-cuir, mi-tissu, devenues mode iconique. Tu vois, j'en ai eu chaud, dis donc. Bravo, Caro.
J'ai la dernière émission, parce que t'as gagné maintenant, donc c'est bon.
Bravo. Hein. Une chronique dans le cas écouté dès maintenant dans les CMA+, de la rubrique Podcast Plus du site radio-g.fr. C'est la fin de l'émission. Merci à nos chroniqueurs et queuses du soir. Merci Olivier. Merci Caroline.
Merci.
Merci Soso. Merci Florian.
Bon bah merci.
Merci
soirée.
Sandra.
Merci.
Et merci Mathias. On embrasse bien fort le reste de l'équipe que nous vous retrouverez dans les prochaines émissions. On se retrouve dans 15 jours, même heure et même endroit. Et d'ici là, n'oubliez pas, on ne peut pas être sans avoir été. C'était CMA.
Et merci.